Radio Okapi.
Belinda Bosoma pour le journal.
Okapi.
Vite lancer les opérations contre les FLR. Le processus de leur désarmement volontaire ayant échoué, ces propos sont du patron de la MONUSCO. Pour Martin Kobler, c'est plus compliqué contre les FLR comparativement au M23, mais il faut commencer, dit-il. Situation désastreuse à la prison centrale de Bounia. Téné, hommes, femmes dorment par terre et à peine habillés, accompagnés d'une odeur nauséabonde, des blessés abandonnés gisent par terre, prison ou mouroir. José Deschartes Menga nous fait le point dans ce journal. Dans l'Équateur, cette maladie inconnue attaquant les poissons se répand à travers la province. Voici deux mois déjà, constat du chef de service de l'agriculture, pêche et élevage et son collègue de l'environnement. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis. Le processus de démobilisation volontaire des FDLR ayant échoué, il faut lancer très vite les opérations contre les FDLR, déclare Martin Kobler sur le chemin d'Addis Abeba, face à ce qu'il convient d'appeler l'échec du processus de démobilisation volontaire de ces rebelles rwandais. Le chef de la MONUSCO souligne qu'il est temps de passer à l'autre phase du processus, à savoir le lancement des opérations conjointes FARDC-MONUSCO contre les FDLR basées dans l'est de la RDC. Martin Kobler l'a dit hier dans une interview à Radio Kapi à Goma, le patron de la MONUSCO au micro de Jules Ngala.
C'est beaucoup plus compliqué contre les FDLR, mais pas impossible. Il faut vraiment conquérir des villages, du territoire qu'ils occupent. Alors il faut commencer parce que même si ça va durer, il faut commencer bientôt. Parce que tout le monde est impatient. Le Conseil de sécurité est impatient. La population est impatiente ici. Oui. Hein, je viens de la conférence de presse de Radio Capi tout à l'heure. Oui. Alors les journalistes sont impatients. Ils communiquent le sentiment de la population. C'est pas possible alors de garder les FDLR ici. Le processus de désarmement volontaire a échoué. Il a échoué. Maintenant, c'est le temps de vraiment commencer les opérations.
Martin Kobler a également indiqué qu'il va faire le même rapport aux chefs d'État africains qui se réunissent dès ce vendredi au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Entre-temps, dans l'Ituri, la situation est désastreuse dans l'enceinte de la prison centrale de Bounia. Plus de 1000 prisonniers sont entassés dans cette vieille bâtisse datant de l'époque coloniale, dans des conditions hygiéniques horribles. Alors que la capacité établie de cette maison carcérale n'est que de 250 personnes, José Deschartes Menga a visité cette maison carcérale pendant les émeutes qui s'y sont produites hier entre deux groupes de prisonniers. Il nous peint ce tableau dans ce reportage.
Ce bâtiment construit dans les années 40 appartenait à un commerçant grec. Ce n'est qu'à l'indépendance qu'il a été affecté à l'administration publique pour servir de prison. Il est établi dans le quartier Bankoko en plein cœur de Bounia. En pénétrant dans ce bâtiment dont l'accès n'est pas facile au public, c'est un désastre qui s'offre à vous. Des hommes, des femmes et des tout jeunes dont la plupart sont squelettiques dorment par terre. Ils sont à peine habillés. Une odeur nauséabonde vous accueille dans la cour centrale. Des blessés sont abandonnés et gisent par terre, sans aucune force de crier leur douleur car ils estiment que personne ne peut entendre leurs cris. L'un d'entre eux nous déclare qu'ils mangent difficilement. Hormis la privation des libertés, ils sont déshumanisés, ce qui rend certains féroces comme des fauves. Après les émeutes d'hier, 9 blessés graves ont été transférés à l'hôpital général et placés sous surveillance policière. L'infirmerie de la prison ainsi qu'une équipe de médecins sans frontières soignent des dizaines d'autres dans ce bâtiment dont la vie au quotidien ressemble à un mouroir. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Et puis ce bilan établi ce mercredi par la Ligue provinciale des taximens exploitant les motos du Katanga, Litmancat en sigle. 18 motards ont été tués par des hommes non autrement identifiés au cours de l'année 2014 dans la ville de Lubumbashi. Le président de cette structure appelle les motards de Lubumbashi et ceux exerçant cette activité dans les environs à respecter l'heure d'arrêt de travail indiquée par l'autorité urbaine. Sylvain Kalinga, joint par Colin Djumamoussampo.
Toutes les tueries étaient au-delà des heures fixées par les autorités. On nous a demandé d'arrêter au plus tard 20h30. Et maintenant, toutes les tueries que moi je connais ont été au-delà de 22h, 23h, voire même à 1h du matin. Et dernièrement, il y a un cas le plus récent, celui de Kabouïtéa, qu'on n'a pas même encore enterré. Il a été tué, c'était vers 22h30. Donc ce sont les heures-là que nous constatons beaucoup de tueries. Mais pendant la journée, une plante de brigade qui arrache des motos, mais ils ne tuent pas. Mais pendant la nuit, quand ils vous arrachent la moto aux airs tardives, ils vous tuent facilement.
Direction la province de l'Équateur, je vous l'ai dit dans le sommaire, la maladie non encore identifiée qui attaque les poissons se répand de plus en plus après le nord Ubangi où elle a été signalée en décembre dernier par le projet pisciculture de la communauté évangélique de l'Ubangi et de la Mongala. Cette maladie sévit maintenant dans 3 cours d'eau du secteur de Mbari, territoire de Guémena. Le chef de service de l'agriculture, pêche et élevage de ce district et son collègue de l'environnement qui viennent de faire des investigations dans ces cours d'eau en ont fait le constat. Dominique Olumbi.
Le chef des services de l'agriculture, pêche et élevage du district d'Issy Lubangi et son collègue de l'environnement sont rentrés hier à Guémena après leurs investigations dans les cours d'eau Bogoro, Boudoumbili et Boussambia au secteur de Mbari, territoire de Guémena, après avoir été alertés par des pêcheurs. Leurs investigations confirment les constats faits par les projets pisciculture de la communauté évangélique de Lubangi de la Mongala au nord Ubangi. La maladie qui attaque notamment les protocteurs et anguilles, poissons d'eau douce des rivières, a gagné ces 3 cours d'eau du sud de Ubangi. Comme dans les élevages piscicoles des territoires de Mumbai et de Businga, elle se manifeste par des grosses plaies avant que des poissons atteignent et meurent. Cette situation affecte très sensiblement les pouvoirs d'achat des pêcheurs du secteur de Mbari qui ne vendent plus que 20% de leur production journalière de poissons. Le reste est atteint par cette maladie étant jeté. Les chefs des services de l'agriculture, pêche et élevage et de l'environnement disent avoir prélevé des échantillons sur des poissons morts qu'ils ont envoyés à Kinshasa pour des analyses de laboratoire en vue de déterminer la maladie et organiser la lutte contre elle. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Retournons au Katanga. Le gouvernement provincial vient de débloquer la somme de 225 000 dollars américains pour la réhabilitation du pont de Luizi dans le district du Tanganyika. Ces travaux ont été confiés à l'office de route. Or, il se trouve que parmi les organisations qui ont plaidé pour la réhabilitation de cette route, l'une d'elles estime que la somme est insignifiante. Expédie Mombamoubi.
D'après une dépêche de l'ACP, Agence congolaise de presse, datée du 15 janvier 2015, le gouvernement provincial du Katanga a débloqué 225 000 dollars américains pour la réhabilitation du pont de Luizi. Cette somme est dérisoire, estime pour sa part l'ONG Centre Le Zébro, qui figure parmi les organisations qui ont mené le plaidoyer en faveur de cette réhabilitation. Son directeur, Maître Gaston Moulongoy.
Vous avez l'idée de la consommation en termes de fuel, de carburant, au kilomètre seulement. Et il faut prendre les travaux, les plans de réhabilitation de ce pont-là. Le montant qui a été débloqué, c'est vraiment dérisoire.
En réaction, par le canal de son chef de division technique, l'Office des routes appelle plutôt à la patience. Vous serez informé de l'évolution des travaux en temps opportun, a conclu l'ingénieur Justin Yuma. Notez que la réhabilitation du pont de Luizi va permettre d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations touchées par les récents conflits intercommunautaires et aussi, sur le plan économique, faciliter l'évacuation des produits agricoles de cette zone considérée comme l'un des greniers du district de Tanganyika. Kalemi, Expedi Mwabamubi, Radio Okapi.
Bientôt, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, va organiser des formations des métiers en faveur des victimes de violences sexuelles. Un cadre de collaboration entre l'INPP et la représentante personnelle du chef de l'État en charge de violences sexuelles vient d'être mise en place. Cette formation commence par le Nord Kivu pour s'étendre dans d'autres provinces du pays. Richard Junior Kamunga nous en dit plus.
Cette initiative fait suite à des visites de terrain répétées exécutées à Koma au mois d'août 2014 par Mme Jeanine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Mme Mabunda estime donc que l'insertion sociale et économique de toutes les femmes et enfants vulnérables passe par un métier à apprendre.
Que va-t-il se passer? L'INPP à Goma va probablement sur 3 ou 4 territoires test faire une étude de besoin. Dans ces milieux-là, quel est le type de besoin en termes d'emploi ou d'auto-emploi que l'INPP a identifié. Et en fonction de ça, quel est le type de formation qu'elle est capable d'offrir dans ces territoires-là.
Pour Maurice Tukuyakayembe, directeur général de l'INPP qui a salué cette collaboration, tout en démontrant l'importance de sa structure qui s'occupe du développement des capitales humains et verra l'automisation des victimes de violences sexuelles, non seulement au Nord Kivu, mais à travers tous les pays.
Nous avons trouvé que le travail qu'elle est en train de faire, c'est un travail difficile, certes, mais qui, par les leviers de la formation professionnelle, il y a possibilité de passer de l'humanitaire à la dignité de l'homme.
Pour démarrer les activités, Mme Mabunda a remis un chèque au responsable de l'INPP. Le montant du chèque n'a pas été révélé à la presse.
Entre-temps, l'UNICEF a besoin de 132 millions de dollars dans le cadre de l'action humanitaire pour les enfants en 2015 en RDC. Ces fonds serviront à plus de 2 millions de personnes déplacées suite aux conflits armés. La grande majorité de ces personnes vit en dehors des camps dans des familles d'accueil. Selon un communiqué de l'UNICEF, l'organisation appelle aussi à réunir plus de 3 milliards de dollars pour assister 62 millions d'enfants menacés par les crises humanitaires partout dans le monde. Cela représente un bond d'un milliard de dollars de plus en besoin de financement depuis l'appel de l'année dernière. Et pour terminer, sachez que le professeur des droits constitutionnels à l'UNIKIN, André Mbatamangu, a été victime hier en Afrique du Sud de la part des inconnus qui lui ont tiré 3 balles. D'après son témoignage, des hommes armés de revolvers ont tiré sur lui dans sa chambre d'hôtel à Pretoria. L'universitaire congolais en est sorti avec une blessure à la tête et se trouve actuellement hospitalisé dans une clinique de Pretoria. La police sud-africaine a ainsi ouvert une enquête contre inconnus. Merci d'avoir suivi ce journal, mais je vous prie de rester avec nous car notre heure d'actualité se poursuit.
Okapi. Okapi. Adieu. Okapi.